Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Martin Bourboulon. Vers 19h45, le son du jour, ce sera Walks on You de Reeve. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui, pour une fois, ce soir, sera à Paris pour nous faire découvrir une nouvelle école, Les Arts, l'école supérieure des arts du rire. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Martin Bourboulon.
Bonsoir Arnaud.
Votre diptyque, Les Trois Mousquetaires, est désormais disponible en DVD et Blu-ray, puisque après D'Artagnan, le second volet Milady est sorti la semaine dernière. C'est donc l'occasion pour moi de vous accueillir dans cette émission pour parler de ces films, mais aussi pour revenir sur votre parcours et en savoir un peu plus sur vos méthodes de travail. Alors, il faut dire d'emblée que j'ai eu le plaisir, l'honneur de bien connaître votre mère, Dominique Rousset, que les auditrices et auditeurs de France Culture ont bien connu aussi à travers leur poste de radio durant de longues années, camarades et collègues formidables. Salut à elle. Jamais, hein, si elle écoute la radio.
Elle écoute.
Votre père, Frédéric Bourboulon, a exercé beaucoup de métiers différents dans le monde du cinéma, mais c'est comme producteur qu'on le connaît le mieux avec la société de production Little Bear, fondée par Bertrand Tavernier, dont il a notamment produit tous les films de 88 jusqu'à la mort du cinéaste. Parmi ces films, La fille de D'Artagnan, on va reparler plus tard de votre film, mais aussi de celui de Bertrand Tavernier, mais le fait que vous ayez eu l'occasion, Martin Bourboulon, d'assister à certains moments de ce tournage, quoi, vers 13, 14.
Oui, à peu près.
14, 15 ans, d'après les dates, hein. Vous avez quel souvenir de cette ambiance d'un tournage?
Bah, j'ai le souvenir d'un enfant un peu émerveillé par une certaine forme de magie qu'on découvre, c'est-à-dire l'envers du décor, en réalité. Et j'ai des souvenirs même assez précis parce que le tournage avait lieu en partie à Sarlat. J'y avais été. Puis j'avais assisté effectivement à un tournage de film pour une des premières fois de ma vie, et en tout cas une première fois d'un tournage de film en époque et en costume. Et évidemment, avoir des chevaux, des costumes, des répétitions, une espèce de mise en situation assez longue des scènes, essayer de comprendre un peu les métiers des uns et des autres avec un œil assez émerveillé, un peu fasciné. Et voilà, alors sans savoir exactement ni évidemment ce que j'allais faire après, mais il y avait une première prise de contact comme ça avec un métier qui m'a tout de suite frappé, qui m'a tout de suite marqué.
Mais vous avez eu d'autres passions, d'autres désirs, vous vouliez être, je sais pas, astronaute ou...
Pas vraiment, non, j'avoue, c'est vrai, très vite concentré sur ces métiers-là, il me semble, hein, de la mise en scène, de la fabrication des histoires. Alors après, il faut savoir un peu dans... Il y a plein de métiers possibles au cinéma. De là à dire que dès 13 ans, je savais réellement ce que je voulais faire, je ne crois pas. Mais d'aller participer à un endroit, peut-être, dans des maillons de cette chaîne de fabrication, un peu d'une émotion à l'arrivée ou de la fabrication d'un film, je crois que très rapidement, ça m'a attiré. Donc, voilà.
Alors après, vous avez été, j'avance un peu dans le temps, second assistant réalisateur, puis assistant réalisateur sur pas mal de films, de Pierre Jolivet, Mathieu Kassovitz, Bertrand Tavernier, ou Jonathan Demme ou Jean-Paul Rapneau. Est-ce que vous avez appris sur le tas, Martin Bourboulon, ou est-ce qu'il y a eu un passage par quelque chose qui serait une école ?
Bah, c'est un peu un cocktail de tout ça. On apprend toujours avec une somme de plusieurs choses. Mon parcours, effectivement, c'est quand même pas mal construit sur le tas, pour reprendre l'expression. À observer surtout ces grands metteurs en scène que vous avez évoqués et à essayer de comprendre en réalité, je crois, comment ils réussissaient à essayer de rendre lisible leur vision de leur film. Je crois que c'est ça qui m'avait le plus marqué, que ça soit Bertrand, que j'ai vu plusieurs fois, comme vous l'avez rappelé, qui a travaillé avec mon père pendant de longues années, ou Jean-Paul Rapneau, que j'estime énormément, et j'ai beaucoup aussi appris en étant sur Bon Voyage. J'ai essayé de comprendre, je voyais à quel point cet homme, Jean-Paul, était investi et complètement nourri de son projet, et d'essayer de comprendre comment il essayait de le rendre lisible pour les équipes, d'abord, avant de le partager évidemment avec le public. Ça, ça me fascinait beaucoup. Comment un metteur en scène essaie d'expliquer à son chef opérateur, à son chef costumier, à son décorateur, quelle vision il a, qu'est-ce qu'il veut raconter exactement dans telle scène, pour en venir après à une émotion. Et voilà, donc j'ai essayé d'apprendre ça, de comprendre, sur les Rivières pourpres aussi, avec Mathieu Kassovitz, j'étais assez jeune. Je me suis beaucoup nourri de ça, d'une cinéphilie aussi, qui était à la maison, des films qu'on m'a évidemment proposé à voir, que j'ai découvert avec mes parents, des films aussi en VHS qu'on faisait tourner un peu en boucle avec mon frère, et un passage par la fac aussi, dont je me souviens aussi, c'était à la Sorbonne Nouvelle, après le bac. Mais j'ai été quand même très attiré assez vite par le terrain, en réalité. Par l'envie,
fabrication.
Oui, la fabrication, ouais. L'envie d'en être. Au fond, de choisir peut-être plus rapidement l'aspect pratique que théorique.
Alors, il y a d'autres formes d'école ensuite qu'on évoquera. Il y a des courts-métrages que vous réalisez, des publicités, mais aussi pendant 5 ou 6 ans, vous ferez partie du pool de réalisateurs des Guignols de l'info. Et puis il y a aussi donc ces films que vous voyez, cette cinéphilie qui vous marque. On va évoquer l'un d'eux à travers votre choix musical pour cette émission, Martin Bourboulon, puisque vous avez voulu qu'on nous écoutions ensemble, et on va le faire dans un instant, un morceau de Goran Bregovic qui fait partie de la bande originale du film d'Emir Kusturica, Le Temps des Gitans. Pourquoi ce choix-là ?
Parce que c'est, je trouve, un morceau qui m'a beaucoup marqué, que je trouve très beau, très lyrique, ces voix comme ça qui emportent énormément, qui m'ont beaucoup séduit. Et ce film, c'est un des films qui m'a le plus marqué dans mon adolescence, dans mon début de parcours un peu en cinéphilie. Vous dire pourquoi exactement, je ne sais pas, je pense aussi parce qu'il y avait un exotisme avec un univers qui était finalement assez loin de nous, en tout cas de ma vie à moi à ce moment-là, de découvrir comme ça cette relation, cette jeune histoire amoureuse, des visuels aussi très forts. Je crois que c'est aussi la prise de contact pour une des premières fois avec un film où je me souviens donc ce morceau d'Ederzi de Goran Bregovic qui prend toute son ampleur dans une scène particulière dans le film, qui est celle du lac en feu, où il y a ces personnages qui à un moment donné sont en lévitation, des visuels totalement oniriques, très fous, très très différents de ce que j'avais pu avoir l'habitude de voir, et ça m'a marqué. Et ce morceau, je le trouve magnifique, et il renvoie à une certaine nostalgie, et j'aime bien un peu rêvasser sur ce morceau et me l'écouter de temps en temps au casque.
Alors rêvassons ensemble.
Rêvassons.
Oh,
Voilà cette musique qui nous rappelle plein de souvenirs, qui nous fait voyager. On va voyager un peu dans le temps, vous le savez, Martin Bourboulon. Je vais vous ramener le 4 février 2015.
D'accord.
Jour de sortie de Papa au Moment, votre premier long métrage dans lequel Marina Foïs et Laurent Lafitte, rappelons-le, incarnent un couple qui se sépare et qui va rivaliser d'inventivité pour ne pas avoir la garde des enfants. Scénario original d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, que vous retrouverez pour Les Trois Mousquetaires, on va en parler. Mais est-ce que vous vous souvenez de cette journée de la sortie de votre premier long métrage de cinéma, j'imagine?
Oui, alors, c'est un scénario original de Guillaume Clicquot-Demanck sur lequel Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte ont effectivement retravaillé et se sont totalement inscrits comme co-auteurs.
Vous faites bien de préciser.
Oui, oui. Et en revanche, Mathieu et Alexandre ont évidemment écrit la suite.
Pas pour moi en
deux. Mais alors, pour revenir à ce premier film. Je me souviens parfaitement de cette journée particulière. Oui, c'est donc un premier film, comme vous l'avez rappelé. Et moi, je me souviens surtout d'une première prise de contact avec le public qui était au Festival de l'Alpe d'Huez un petit peu avant, dans lequel on était allé avec l'équipe du film. Et on avait été heureusement bien reçus. Donc voilà, de là à dire qu'il y avait les prémices déjà de ce qui allait suivre, c'était pas forcément écrit. Mais c'est une journée géniale parce que moi, j'avais une petite notion des journées chiffres, des soirées chiffres et des 14 heures. Et mon producteur Dimitri Rassam l'avait encore plus que moi. Donc, on a senti des signaux bons qui se sont un peu confirmés. Et oui, ça a été très heureux parce qu'au fond, quand on fait un film, évidemment, on a envie qu'il soit vu par le public. Et une comédie, la sanction, elle est un peu immédiate parce que le contrat, c'est que ça fasse rire. Donc, quand c'était le cas...
Contrat rempli.
On l'a bien vécu, en tout cas, on a été très heureux. C'est une aventure très collective, donc ça nous a rendus tous très heureux.
Alors, le film totalisera un peu plus de 2 800 000 entrées. Effet rare, vous enchaînez très rapidement. Papa ou Maman 2 sort moins de 2 ans après le premier, et qui connaîtra aussi un très beau succès. Évidemment, l'art de la comédie, c'est un art délicat. Hein. La question du rythme est évidemment importante. Est-ce que... cette expérience que j'évoquais des guignols de l'info, ça vous a servi concrètement?
Ah mais à 100%. Je suis très reconnaissant, moi, de cette expérience. J'ai adoré travailler au guignol de l'info. J'y ai rencontré des gens formidables, tous les auteurs, mais aussi Yves Le Roland, qui était le directeur artistique. Et ça m'a non seulement servi, mais ça m'a complètement formé. Parce qu'au fond, ça a beau être des marionnettes. J'ai fait plus de 150 sketchs, je crois, ces petites fictions, en réalité, sur les 7 ans. Et c'est totalement passionnant parce que c'est des marionnettes qui sont en latex, posées le matin sur une table. Et il y a quand même un texte à mettre en scène dans la journée. Il y a des moyens mis à disposition importants. Et là, il y a un contrat très clair. Il faut qu'on raconte quelque chose qui ait quand même du sens au service des auteurs qui veulent raconter et prendre position sur un sujet. Et il faut aussi faire rire. Et ça m'a énormément appris l'art du découpage, la grammaire du cinéma. À quel moment, en réalité, dans la comédie, c'est efficace de passer d'un plan large à un plan moyen, de réserver le plan court sur un plan d'écoute, parce que de temps en temps, on s'aperçoit que finalement, ce qui est plus drôle, c'est d'avoir une réaction sur celui qui écoute plutôt que sur celui qui dit la réplique. Ça, c'est des choses qui m'ont appris et qui sont, au fond, valables totalement pour la marionnette, comme pour l'être humain à l'arrivée après. Donc, le rythme que vous évoquiez aussi est totalement... vient de là, donc oui, j'ai beaucoup apprécié cette expérience. La plupart du temps avec des textes quand même qui étaient très bien écrits.
Ouais, c'est mieux.
Ouais, c'est mieux, et ça apprend aussi ça. Ça apprend aussi que à l'arrivée, une bonne situation de comédie, on aura beau tout essayer au tournage, au montage pour la rattraper, si à l'origine elle n'est pas parfaitement bien écrite, c'est difficile de la réussir, et c'est ce que j'ai aimé sur Papa ou Maman. Avec le travail des auteurs, Guillaume, Mathieu, Alexandre, c'est que j'avais cette chance d'avoir cette base de texte qui était forte et sur laquelle on a pu rebondir avec Marina Foïs et Laurent Lafitte derrière.
Alors j'anticipe un petit peu, mais ce qu'on retrouve aussi, et c'est une des qualités du diptyque, pour l'instant diptyque, des Trois Mousquetaires, c'est tout d'un coup c'est la punchline, enfin c'est la réplique qu'on n'attend pas et qui nous fait rire. Et ça, ça vient de ce travail-là aussi.
Bien sûr, on apprend à essayer de réserver des petites surprises, de monter un peu en épingle une séquence en se disant, moi je sais qu'il y a un petit rendez-vous à tel moment de la séquence qui peut être d'ailleurs un gag visuel ou effectivement dans la réplique, le punchline ou un plan de coupe ou quelque chose qui va se passer. Et c'est comment on tend l'arc pour y arriver. Et les grands metteurs en scène de comédie que j'aime observer, auteurs ou réalisateurs de toutes les nationalités, je trouve qu'à chaque fois, ils parviennent magnifiquement bien à ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tendre l'arc pour justement faire que le rendez-vous avec la situation qui est encore plus drôle arrive et fasse son effet. Et il y a un effet presque un peu injuste aussi, c'est que de temps en temps, on se rend compte aussi qu'il y a des situations de comédie dont on sait qu'elles sont bonnes, des répliques qui sont bonnes, mais si avant, les quelques minutes avant, on a un petit peu décroché, c'était un peu moins bon, que c'était un peu plus mou ou que le rythme était plus lent, on risque de passer à côté du bon rendez-vous qui arrive. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la vision aussi un peu plus macro aussi sur... J'ai beaucoup appris ça aussi.
Après ces deux comédies, Martin Bourboulon, il y a l'envie, on le sent, on le sait, vous l'avez dit, de vous essayer un autre registre. Le projet de Eiffel, porté au départ par la scénariste Caroline Bongrand, c'est le projet qui tombe à pic pour vous. C'est tout d'un coup, vous dites, ah, voilà, je vais faire quelque chose de complètement différent. C'est votre envie, ça.
Oui, il y a pas de plan de carrière défini, mais il y a l'envie clairement affichée de se dire que il y a pas de genre unique, il y a que des bons sujets. En tout cas, je le vis comme ça à ce moment-là. J'observe évidemment avec beaucoup d'admiration la carrière de grands réalisateurs internationaux, Spielberg pour ne pas le citer, qui toute leur vie ont passé du temps à avoir des points de vue sur des films et des genres différents. Mais aussi en France, hein, la carrière de Rapneau, on en parlait, de Patrice Lecomte aussi, qui passe de Ridicule au Bronzé. Je trouve que c'est des parcours qui m'inspirent énormément. Et donc, il y a l'envie. En tout cas, ça tombe à pic. Effectivement, le scénario de Caroline, à ce moment-là, Bongrand, il m'est présenté par la productrice Vanessa Van Zuylen, que mon père connaissait aussi, donc je l'ai rencontré. Et je trouve que dans ce scénario de Caroline, il y a la promesse d'un grand film épique, avec une dynamique et un parcours intime aussi très fort. Et c'est vrai que je tombe sous le charme, au premier degré, sur cette histoire romantique qui dit « Et si la tour Eiffel avait été construite par amour ?» Je trouve qu'il y a là une dystopie importante et amusante pour un grand film de cinéma. Donc je m'investis à fond là-dedans,
oui. Oui, s'investir à fond, parce que quand on sait le temps, l'énergie que demande la réalisation d'un film, alors qui plus est historique, la construction de la tour Eiffel, la question c'est quand même savoir quelle est la motivation profonde. Et chez vous, on a l'impression, dans votre filmographie, que c'est quand même c'est ce ressort-là, celui de l'intime, qui vous motive toujours.
C'est toujours des choses qu'on a du mal à identifier sur le moment. Peut-être, en tout cas, il y a comme point commun entre Eiffel et Papa ou Maman-là, à ce moment-là, l'intime à titre plus personnel peut-être, mais l'intime des personnages, j'en suis convaincu, parce que je trouve que...
Je parlais d'eux, hein.
Oui, oui. mais on trouve toujours un peu de soi, ou en tout cas, on se rend compte qu'on y met toujours un peu, mais en tout cas, évidemment, pour les personnages, parce que ça soit dans Papa ou Maman ou dans Eiffel, Papa ou Maman, au fond, moi, ce qui m'a passionné, c'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il s'agissait d'une histoire d'amour, c'est une comédie de remariage. En réalité, ce couple n'est motivé que par une chose, c'est un moteur émotionnel un peu inconscient. Ils se lancent dans cette guerre folle pour ne pas avoir la garde de leurs enfants, mais on se rend compte aussi qu'ils le font pour reséduire l'autre. C'est aussi cette folie qui s'est perdue dans les années. C'est aussi cette folie qui leur a permis d'unir une histoire d'amour très forte, qui s'est un peu éteinte avec le fil du temps et du quotidien. Et que dans cette guerre, ils se reséduisent en se lançant dans ce truc-là. Et je trouve que dans Eiffel, il y a ça aussi. Et moi, c'est ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a plu, et c'est ce que j'ai voulu partager vite avec Romain Duris, qui a magnifiquement épousé ça. C'est que la construction de cette tour, cet enjeu, ça aurait pu être le portrait d'un poète, d'un artiste, d'un peintre, ou que sais-je. C'est le portrait d'un grand créateur, quel qu'il soit, qui m'a intéressé, qui est porté par un moteur émotionnel intime. Et au fond, c'est le projet, moi, qui m'a plu dans ce film-là. Et si cette tour avait été faite par amour, encore une fois, qu'avait imaginé Caroline Bongrand, c'est on est capable du plus grand... parce que ça fait appel à quelque chose d'inconscient plus intime. Donc, y a un point commun entre ces trois personnages.
Et puis, on va voir qu'il y en a avec les suivants, hein, puisqu'on va en venir aux mousquetaires. Mais restons un instant quand même sur ce prisme de l'intime, avec évidemment l'enjeu, surtout pour des situations comme celle-là. Voilà, un couple qui se sépare, oh là là, on a de la peine. Ben non, en fait, ils sont horribles parce qu'ils veulent se séparer, mais en fait, non, voilà, vous venez de raconter. Eiffel et cet amour de jeunesse, il faut embarquer le spectateur. Et sur cette question, on va écouter donc un cinéaste que vous aimez beaucoup, vous l'avez déjà cité, c'est Steven Spielberg. On écoute cet extrait d'une archive de la matinale de France Inter en 2013.
My own personal responsibilities, ma responsabilité as a
vis-à-vis de moi-même en tant que cinéaste.
I think I've talked about that a lot over the years.
J'en ai beaucoup parlé au fil des années.
And it's all about inspiration.
Ça se ramène à une question d'inspiration, et l'inspiration, c'est une route à deux voies. Sur cette route où ça circule à double sens, tout ce que je demande au public, c'est donnez-moi les 30 premières minutes de votre temps et regardez, et puis formez votre opinion et décidez si vous aimez ça ou pas. Et je pense que pour la plupart d'entre nous qui faisons des films, tout ce qu'on demande au public, c'est de nous donner de leur temps avant de perdre patience, avant de décider que l'histoire que nous racontons ne les intéresse pas, de passer à autre chose, ou de prendre leur iPhone et de s'envoyer des tweets et des messages. Si je fais bien mon travail en tant que cinéaste, alors ils resteront là jusqu'au bout. Mais tout ce que je demande, c'est 30 minutes.
Voilà. En tant que cinéaste, Martin Broboulon, votre obsession, vous l'avez dit aussi souvent, c'est le spectateur. Vous entendez comment ces propos de Spielberg ? Tout ce que je demande, c'est 30 minutes.
Je les trouve très inspirants. Je les comprends parfaitement. J'entends ce qu'il raconte et je vois par quoi il est traversé. Enfin, je vois, j'imagine surtout par tous ces films. Mais je trouve que l'obsession du spectateur est un très beau moteur créatif. À titre personnel, encore une fois, chacun y trouve son inspiration où il veut. Mais moi, en tout cas, je me rends compte que d'en être un tout petit peu obsédé, ça me rend... meilleur, je sais pas, mais en tout cas, ça me challenge. Et que ça soit, c'est aussi pour ça que j'ai aimé passer d'un genre à l'autre et que je continue à le faire, c'est que dans la comédie, l'obsession du spectateur, c'est à quel moment je vais... Au fond, c'est la même chose, c'est on cherche à provoquer une émotion, du rire, de l'aventure ou que sais-je. C'est ça notre métier de réalisateur et de metteur en scène. Et donc, être obsédé par le spectateur sur Papa Maman, c'est se dire, voilà, qu'est-ce qui va le faire rire ? Et ce qui me fait rire, moi, il faut que ça le fasse rire lui aussi. C'est encore plus difficile, c'est-à-dire qu'on doit avoir une conviction intime sur une prise, sur un montage, sur un mot, sur une discussion avec ses auteurs. On tranche à l'arrivée en se disant, voilà, c'est ça que je vais garder. Et je dois être intimement convaincu que c'est la bonne décision parce que c'est celle-là qui va, a priori, à mon sens, faire rire le plus grand nombre. Mais c'est pas évident, hein, d'être sûr de ça. Donc, moi, je me nourris de ça, d'être obsédé par le spectateur en disant comment il va réagir, est-ce qu'il va trouver ça long, est-ce qu'il va trouver ça court, est-ce qu'il va pas trouver ça trop rapide, est-ce que ce plan large, il va le lire parce que le gag, il est peut-être un peu trop au fond, donc est-ce qu'il faut que je passe par un plan plus rapproché? Est-ce que le spectateur, il va trouver que c'est plus drôle d'être sur Laurent Lafitte qui dit la réplique ou est-ce que c'est plus drôle d'être sur Marina qui l'entend ? Alors on essaye les deux. Je trouve ça passionnant de réfléchir à ça et j'assume ça volontiers, ouais.
Et à propos de Spielberg, toujours, il y a aussi un modèle en tant que chef d'équipe sur un plateau. Vous comparez souvent votre rôle à celui d'un skipper sur un bateau qui donne le cap mais qui doit aussi savoir... garder son calme quand il y a un grain à essuyer. Est-ce que ça, c'est une disposition naturelle chez vous, Martin Broboulon, ou c'est quelque chose qui se bonifie au fil des années, des tournages ? Il faut savoir tenir un plateau quand même de cinéma.
Ça s'apprend, je pense. Évidemment, on s'améliore avec les expériences. Enfin, j'ose l'espérer.
C'est souhaitable.
Après, en disposition naturelle, je sais pas. Il se trouve que j'ai appris à faire du bateau assez jeune. Donc cette comparaison, je continue à la trouver juste parce que je la retrouve dans mon quotidien au travail. On se rend compte aussi finalement, mais c'est presque, on le sait, mais quand même, il faut se l'appliquer, que à des moments, c'est pas forcément en créant du chaos, de l'énervement, du stress, que les meilleures idées vont sortir. En tout cas, pas dans ma manière de fabriquer les choses. Alors, je sais qu'il y a d'immenses artistes qui fonctionnaient comme ça et dont j'apprécie les œuvres plus que tout. Mais j'ai en tout cas vu que c'était pas mon fonctionnement. Donc, il fallait pas que je me laisse aller à un fonctionnement qui allait pas me correspondre. Et au-delà même d'une vision, moi, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement d'essayer d'avoir un cap précis, une manière de faire un film, d'essayer de trouver quelques mots-clés pour nourrir ses équipes, mais de capitaliser aussi sur les ressources et le talent de proposition des gens qui travaillent avec vous. Je préfère finalement, comme avec un acteur, je ne dis jamais à un acteur, avant la première prise, comment il faut qu'il joue la scène. Je ne veux pas me priver d'une idée qu'il aurait, que j'aurais pas eue, qui serait peut-être meilleure que celle à laquelle je pensais. Je préfère avoir un travail de rebond sur une réorientation à partir du moment où le cap était en amont défini, plutôt que de frustrer une idée créative qu'il aurait eue et qu'il n'oserait pas faire parce que je lui aurais dit dès la première scène comment le jouer. Et c'est pareil avec mes collaborateurs dont je suis proche et qui travaillent avec moi depuis longtemps. Ça, c'est mon chef d'écho, qui est Stéphane Taillasson, qui a eu un César pour son magnifique travail sur les Mousquetaires. On travaille ensemble depuis longtemps. Et on a un cap, on a une vision d'un film, c'est encore une fois sur le film qu'on va faire là. Et après, je veux me nourrir de ses idées, de son expertise, parce qu'il aura des idées que je n'aurais pas eues. Et par contre, je veux me les approprier. Bah, oui. Je les approprie pour le film.
Bah, oui, c'est vous, ça qui est bon. C'est vous qui amenez cette vision. Alors, si on en vient à ces trois mousquetaires, Martin Bourboulon, un diptyque donc, aujourd'hui disponible en DVD et Blu-ray, après avoir réuni pas loin de 6 millions d'entrées en salle. Succès donc au rendez-vous, mais c'était quand même un sacré pari. Alors vous avez donc retrouvé les scénaristes Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte pour ce projet. C'est quoi le désir, la ligne directrice que vous avez eue ensemble en reprenant, en adaptant à nouveau cette œuvre d'Alexandre Dumas père?
Ben, déjà, c'est une impulsion de départ qui est menée par Dimitri Rassam et la maison, le studio Pathé, en l'occurrence Jérôme Sédou et Ardavan Safaï. Et c'est Dimitri, vraiment, et encore une fois cette maison, qui impulse l'envie forte et assumée de continuer à proposer pour la salle de cinéma de l'événement cinématographique. L'événement cinématographique, il a plein de formes différentes, et on l'a bien vu cette année, Le règne animal est un événement merveilleux, Anatomie d'une chute évidemment, et énormément d'autres films. Mais leur envie, et je pense que Dimitri, de fait de son histoire, ça avait envie de reconvoquer un petit peu une Madeleine d'enfance, à la manière des grands films que proposait Claude Berry, ces grands spectacles populaires de qualité avec une grande ambition de cinéma. Et à ce moment-là, moi, je terminais Eiffel. On était un peu en pré-Covid. On était évidemment dans un moment où les plateformes, leur positionnement était mûr et mature et venait challenger un petit peu la consommation des images par le public. Donc c'était, et c'est vrai que le groupe Pathé, et Jérôme Sédou l'a toujours dit, c'était de vouloir continuer absolument à convoquer, à proposer au public des grands spectacles. Et qui dit grand spectacle populaire va de pair avec une grande ambition de cinéma aussi. Donc c'est ce qu'ils ont mené. Et on s'est tous retrouvés dans ce combat-là, d'une certaine manière, et dans cette folie d'entreprise. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces producteurs qui ont pris ces risques-là. Et Mathieu Alexandre et moi-même... sommes arrivés et avons prolongé tous ensemble cette envie en se disant on y va. Et comme on était, à titre plus personnel, déjà avec la maison Pathé sur la fabrication et la finition d'Eiffel, qui était aussi un grand film pour le public, pour la salle, et ambitieux et du coup risqué, voilà, ça s'est inscrit dans une certaine continuité. Et moi, j'y trouvais aussi, à titre plus personnel, une excitation parce que je me confrontais à un genre que je ne connaissais pas, qui était celui de l'aventure et de l'action.
Alors, pour continuer à parler de ces deux films-là, une archive dans l'émission Les Étoiles du cinéma, en août 1994, Bertrand Tavernier évoque, il est au téléphone, parce qu'il était présenté un film en Pologne, je crois, La fille de D'Artagnan, donc un film qui devait être réalisé par quelqu'un qu'il admirait beaucoup, Ricardo Freda, mais qui était déjà très âgé. Donc Tavernier reprend le projet dont il était en fait au départ l'un des coproducteurs. Il explique de quelle façon il a mis en scène ce film.
Comme c'est pas un genre à la mode et tout, est-ce que je me serais pas posé plein de questions? Est-ce que c'est bon pour son image de faire ça? Et puis finalement, c'est ce que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Je voulais retrouver, moi, la cocasserie, la drôlerie qu'il y a chez Dumas et que quelquefois on oublie en route. Je voulais l'insolite, d'arriver à faire un film qui soit amusant sans jamais que ce soit une parodie ou que ce soit de la dérision.
Mais alors sur le plan technique, j'allais dire, Bertrand Tavernier, les chevauchées, les duels, ça doit être un travail fou.
Les chevauchées, j'adore tourner ça. Je crois que j'en ai fait dans La Passion Béatrice, j'en ai fait dans Que la fête commence. Les chevauchées, ça c'est un grand plaisir, moi, ça, de faire ça. Les duels, ça c'était complètement nouveau. Et heureusement, là j'ai eu une grande aide de Sophie Marceau, qui a été formidable, Sophie, parce qu'elle avait travaillé pendant 3 mois l'épée, l'escrime. Et le fait qu'on ait une comédienne qu'on n'avait pas à doubler nous permettait de faire des plans longs, de permettait de travailler à la main, nous permettait de faire beaucoup de choses, de tourner ces duels pas à l'accéléré, comme dans Fanfan la Tulipe, vous voyez vachement que les duels sont en accéléré. Alors que là, Sophie, elle a tout fait à la bonne vitesse, puis elle est jamais doublée. Et c'était très, très excitant de tourner avec elle. Et Philippe aussi, quand il se bataille sur le bateau, Philippe Noiret, il y a un moment où on s'est tous pris au jeu, et on s'est amusés, mais vraiment amusés comme des fous.
Alors ça, c'était l'expérience de Bertrand Tavernier, mais pour vous aussi, Martin Bourboulon, vous avez souhaité avoir des interprètes capables de manier vraiment bien l'épée. Alors elle et il ont suivi des entraînements intensifs, d'ailleurs on le voit dans le making-of en bonus du DVD d'Artagnan, on les voit,
oui.
Ça rigole pas, et du coup, forcément, ça change, ou ça permet de filmer autrement ces scènes de combat.
Oui, alors c'est, on en parlait tout à l'heure, j'avais cette envie, cette vision de filmer l'action de manière peut-être un tout petit peu différente de ce à quoi on allait s'attendre. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on voit l'action, je voulais qu'on la vive. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est un peu théorique, ça veut pas dire grand-chose, ouais. Mais moi j'y voyais quand même un sens, et ça m'a guidé, ça a été un point de départ dans une certaine grammaire pour le film. Ça a été de se dire, donc la vive, ça veut dire être en immersivité. Ça veut dire ne jamais, finalement, dans la mise en scène, prendre trop d'avance sur ce que ressentent et vivent les personnages. Donc, tout d'un coup, ça se construit un petit peu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc rentrer dans un combat, dans le dos, avec les acteurs. Donc, le premier combat dans la forêt, on est vraiment avec François Civil, en D'Artagnan, et on découvre avec lui cette violence tout autour. Mais on n'est jamais dans un plan extérieur, large de situation. On vit avec lui les premiers impacts de balles, les coups d'épée. À un moment donné, il prend un cheval, on monte avec lui sur le cheval. Voilà. Et ça venait nourrir une grande envie de plan, donc tout d'un coup d'immersivité, donc de tourner l'action en temps réel, donc finalement de la faire en plan séquence. Et ça répondait à plusieurs choses. Ça répondait aussi à, bah, puisqu'on refait les Trois Mousquetaires après, on est les films d'après qui ont déjà été faits. Bah, au moins on était d'accord là-dessus de proposer au moins quelque chose d'un peu différent, parce qu'on n'avait jamais vu ces combats-là dans ces films-là filmés comme ça. Donc ça avait le mérite au moins de proposer quelque chose de différent. Et voilà. Et c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré, que j'ai parlé de la manière dont je voyais les scènes d'action à mes quatre camarades et à Eva Green qui avait fait un travail magnifique. Je leur ai dit ça. Et ils ont compris, parce qu'ils ont l'expérience, que ça voulait dire sans doublure. Donc ça allait être à eux d'être en action, dans l'action, dans la situation. Et donc ils ont, comme le disait Bertrand pour Sophie Marceau et Philippe Noiret, ils ont énormément travaillé. Parce que naturellement, ils allaient être mon point de contact immédiat avec la caméra. Que ça soit dans le combat à la fin entre Milady et D'Artagnan, qui est une scène que j'aime énormément. Final fight entre eux. Ils ne sont pas doublés, ils se battent dans le feu. C'est un plan séquence qui dure 3 minutes 50. En
plus, là, c'est épée et poignard. Hein.
C'est épée, c'est poignard, c'est l'élément du feu. C'est dangereux et c'est évidemment des épées qui ne sont pas tranchantes, il n'y a pas de risque mortel, mais c'est du dur quand même, ça fait mal.
Ah, oui.
Donc si on n'est pas préparé, on ne peut pas faire ça. Et voilà, donc ça m'a permis aussi de continuer la réflexion sur, voilà, si on refait les Trois Mousquetaires, quel est le petit pas de côté par rapport aux anciennes versions, tout en rendant hommage à l'ADN de Dumas, à la force comme ça de l'énergie narrative, à ce qu'avait merveilleusement bien fait, je trouve, Mathieu Alexandre, en désossant un petit peu l'œuvre pour en garder que l'essentiel. Et puis de là est venue aussi l'envie d'avoir des costumes un peu différents, d'aller tirer les références plus du côté du western. Voilà, puis tout d'un coup, on se lance.
Alors cette dimension-là, tiens, sur le fond et la forme, sans pitanale question de la vérité historique qui parasite quand même souvent pas mal de films, un piège qui ne s'était pas non plus refermé sur Bertrand Tavernier. Alors là, c'est d'une autre archive, j'avais eu le plaisir d'animer sa masterclass France Culture en 2021. Écoutez cet extrait.
Moi, j'avais dit à ma costumière pour La Princesse de Montpensier, je ne veux pas de fraises. Je trouve que dès qu'il y a un film sur cette époque, sur Henri II, sur Henri III, les gens ont des fraises, et c'est impossible de faire du cheval avec une fraise, c'est impossible. La fraise, c'est comme un smoking. Sans doute, on le portait dans un truc. J'ai dit, on va faire un... Je sais pas si c'est juste. On va mettre aucune fraise, parce que je vois pas comment les gens, ils sont engoncés, ils peuvent pas jouer, les acteurs, avec ça. Donc je pars dans une réaction contre la peinture. Mais la peinture, tous ces tableaux autour d'Henri III et tout ça, c'est des tableaux du 19e. C'est le 19e qui est en train de réinterpréter le 16e siècle. C'est Dunton qui m'a dit toujours discuter les sources. Et ça donnera des idées dramaturgiques qui sont importantes. Mais d'essayer de voir à travers les pratiques quotidiennes où est-ce qu'on mettait une robe quand elle était mouillée dans un château. quand il n'y avait pas d'armoire. Donc, on a cherché pas mal de temps. On ne pouvait pas le mettre dans un coffre où ça allait moisir. Et c'est la créatrice des costumes, Jacqueline Moreau, qui m'a dit, en Afghanistan, où j'ai fait un film, ils les pendent devant la cheminée. Et j'ai dit, on va faire ça. On va faire ça. Et alors, j'ai énormément d'approbation des médiévistes. Il n'y a aucune preuve visuelle que c'est juste, sauf que ça paraît hyper juste qu'on mette des habits comme ça, avec des grands... Ça ressemblait, du coup, j'ai dit, tiens, j'ai l'impression d'être dans une mise en scène de Planchon, d'un seul coup, où il met tout le temps des draps qui pendent. C'est formidable.
Alors, la vraisemblance, Martin Bourboulon, ça vous importe davantage que la véracité. C'est comme Tavernier. Concernant, par exemple, les costumes de vos mousquetaires, ils ont quand même une dégaine incroyable, et Milady a des robes insensées, mais... On y croit. C'est ça qui est important. C'est un pacte avec le spectateur, là encore.
Je crois. Mais je pense que le spectateur lui-même ne réclame pas du réalisme à tout prix. Il réclame de la vraisemblance pour accrocher à une histoire et avoir une sensation à la fin du film. Ah, je crois totalement à ça et je pense qu'heureusement je pense même qu'il faut entretenir, à mon sens, encore une fois, cette notion de différence entre le réalisme et la vraisemblance. Papa ou maman, sur le papier, c'est pas réaliste du tout. Il n'y a pas de juge qui vient dire à des parents, bah, vous mettez ce week-end une boîte à chaussures, vous leur demandez de choisir, et puis vous me direz lundi matin, et on dira chez qui les enfants vont aller habiter. Ça n'existe pas. Mais pour autant, pour qu'on puisse rire, pour qu'on puisse adhérer au film, et qu'on puisse l'apprécier, il faut absolument y croire à 100%. Et donc, on a tout fait, tous ensemble, pour le rendre vraisemblable. Et j'ai beaucoup appris ça, et j'ai beaucoup aimé cette notion-là, à ce moment-là. Et ça me poursuit dans mon travail, à tous les endroits. Mais avant même de considérer un film en entier, chaque début de journée de tournage, on se pose cette question-là. J'allais presque même dire chaque plan. Est-ce que ce plan est réaliste? J'en sais rien, mais est-ce qu'on croit à la situation qu'il y a dans ce plan? C'est ça qui est important. Je suis convaincu de ça.
À propos de plan et de forme, un fait intéressant, puisque vous avez réagi, Martin Bourboulon, aux critiques qui avaient été formulées sur le premier volet d'Artagnan, dont les couleurs étaient jugées trop sombres, trop ternes. Vous avez repris l'étalonnage de Milady avant la sortie de ce deuxième volet. Ça veut dire, c'est rare de... Alors c'est quoi? C'est reconnaître quelque chose qui n'était pas exactement comme il fallait au goût du public? Vous n'étiez pas assez le public pour le premier?
Déjà, ça aurait été dommage de ne pas saisir l'occasion d'avoir, puisqu'on avait fait deux films et qu'il y en a un qui sortait un peu après, se servir de l'expérience, du retour d'expérience du premier. Je ne sais pas si c'est rare, en tout cas, ça nous a paru très naturel. C'est-à-dire qu'il y a un retour d'expérience, il y a une sensation sur un aspect peut-être un peu trop sombre ou vécu en tant que tel par le spectateur, à tort ou à raison, mais c'est le ressenti qui ressort. Donc, comme on sait qu'on n'a pas fait ce film pour le garder que nous, entre nous, pour le garder à la production, on est obligé, et je trouve que c'est même assez naturel, mais c'est pas du tout un truc sur lequel j'ai lutté seul. Mon producteur a impulsé aussi ça, on a tous été très d'accord, et j'ai pas non plus été scandalisé à l'idée d'essayer de rendre, de modifier un petit peu. Et puis quand on a l'impression qu'on améliore... On se renie pas. Là où, en revanche, on peut considérer qu'on n'a pas forcément toujours à écouter les uns et les autres, c'est quand on a une conviction forte sur l'histoire ou sur ce qu'on veut raconter ou sur la manière de le faire. On peut écouter sans entendre, mais là, on a essayé d'entendre.
Non, mais c'est rare. Je trouve que c'était à saluer. À saluer aussi, alors, il y a le casting... éblouissant. Vous avez cité Eva Green, vous avez cité François Civil, il y a bien sûr Romain Duris, Pio Marmaille, Vincent Cassel qui complètent le quatuor des Trois Mousquetaires. Vicky Cripps, Garel, Louis Garel, hilarant. Mais moi, il y a un acteur que j'aime immensément, que je trouve qu'on voit beaucoup trop peu. C'est Marc Barbet, que vous avez choisi pour le capitaine de Tréville, donc le patron des Mousquetaires. Pourquoi lui? Merci, Martin Bourboulon, mais ça fait tellement de bien. Et il apporte quand même quelque chose d'incroyable, cet homme-là.
Parce que tout simplement, c'est un acteur que j'avais vu déjà depuis quelques... Enfin, je l'avais vu dans pas mal de choses. Dans la série Police 1900, où il était formidable. Et parce que tout d'un coup, on a des évidences, des points de rencontre, où je me suis dit, il va y avoir beaucoup de personnages dans ce film, beaucoup de visuels, beaucoup d'histoires, beaucoup d'intrigues. Il faut avoir des figures qui accrochent, des gueules, en fait, tout simplement. Des gueules, des présences qui, dans une économie de mots, marquent malgré tout le moment et l'image. Et j'ai senti ça chez Marc Barbet. Et voilà, donc je suis arrivé après d'autres cinéastes qui avaient aussi senti ça, hein. On va reconnaître aussi, je ne l'ai pas découvert non plus, mais il a évidemment très bien fait. Et puis en plus, quand il s'est mis à parler, il a une voix absolument sublime, une présence très forte. Et je trouvais qu'il avait une autorité très forte, très naturelle face à ses mousquetaires, face à Vincent Cassel aussi, qui est quand même un charisme très puissant et très fort, qui était notre Athos le plus mûr. Et je trouve que le duo marche bien. Donc voilà, Marc Barbet, magnifique,
magnifique capitaine comédien. De Tréville. Alors, il faudra qu'on prenne rendez-vous pour le prochain film. Donc on le laisse pour l'instant sous le... vous allez bientôt tourner, Martin Brebolon. Mais la question quand même, évidemment, que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous allez tourner Le Vicomte de Bragelonne, la suite imaginée par Dumas?
C'est très difficile de répondre à cette question aujourd'hui.
Est-ce que vous en avez envie, en fait?
On a toujours envie de faire des grands projets. On a toujours envie de faire des grandes fresques. La même équipe des mousquetaires, commencée par Dimitri Rassam, Alexandre Patelière, se sont lancés dans Le Comte de Monte Cristo. Avec
28 juin pour la sortie.
Voilà, j'y suis aussi évidemment sentimentalement accroché et proche de ce projet. Donc déjà, il y a ce grand film qui va sortir avec Pierre Niney, qui est beaucoup de... Mes chefs de poste ont travaillé aussi. Après, vous dévoilez un petit peu la suite des secrets, ça reste un peu mystérieux.
Envie ou pas envie ?
Il y a évidemment des envies. La question n'est pas de savoir tellement s'il y a une envie, mais quand est-ce qu'elle pourra se mettre en place, en réalité ? Quand est-ce qu'elle pourra se faire ? Les envies, oui, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir. Le public, vous l'avez rappelé, a été au rendez-vous. Ouais. Maintenant, en réalité, je viens de finir 3 épisodes d'une série où j'ai énormément apprécié travailler pour Apple. Et je me lance dans un autre projet, donc... Là, tout de suite, ce n'est pas ce que je vais faire, mais l'envie est là et on en discute.
Bon, et nous, on discutera du prochain film, je l'espère, le plus tôt possible. Je rappelle que ce diptyque des 3 mousquetaires est désormais disponible en DVD et Blu-ray, puisque Milady est sorti la semaine dernière. Merci Martin Bourboulon d'avoir été notre invité.
Vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Du haut de ses 18 ans, la musicienne polyvalente Reeve tient déjà de belles promesses. Son premier single, Walks on You, propose un univers plastique et sensuel d'une grande maturité. Il faut dire qu'elle est déjà bien entourée. Le musicien Yodelis et le producteur Sam Tiba, connu comme membre du collectif de musique électronique Club Cheval, ont participé à la composition et à l'arrangement du morceau. Si une ombre devait planer au-dessus de ce morceau, ce serait celle de l'album Jesus de Kanye West. De quoi attendre avec curiosité la parution de son premier EP, Forget the Stems, qui sort demain sur le label Animal 63, un label bien connu pour soutenir quelques-uns des grands noms de l'électropop française.
On Monday night, this won't be no mundane fight. No, what made you think you could show up at his door? You've got a right to pry. You never leave when you say so. Do I care? I don't, you'll never know. You won't get him on your side, but guys just have so much pride. Ask away, you're dying to know. I know, you say, she's a whore half the time. Sounds sickin' but not surprised. She'll break yours, man, like she did mine. So, say what you want. I don't mind it sounding harsh. It might make me wanna climb on you. Say what you want, I'll climb on you. Say what you want. I deserve it, I went hard. Made you wanna take a hit on me. There's no pain to be hit on. Yeah, this ain't the way to get me back some. Left you twice, do it thrice. I'm testing you and thrilled you're testing me. Are you jealous that I used to look at you like that? Are you scared my sanity is lost and won't come back? So say what you want. I don't mind it sounding harsh. It might make me wanna climb on you. Say what you want, I'll climb on you. Say what you want. I deserve it, I went hard. You melted into me. On the couch, the TV, the whole damn room. Like wax on. You.
C'était Walks on You, The Reeve.
France Culture, Le Grand Tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Arnaud, bonsoir. Connaissez-vous l'ESSAR, l'École supérieure des arts du rire, va ouvrir ses portes à la rentrée à Avignon avec leur première promotion, sous la houlette de Mélanie et Frédéric Biessi, directeur de la Scala, et de Jérémy Ferrari, le célèbre humoriste qui remplit les plus grandes salles de France et d'ailleurs. Alors, peut-on apprendre à rire ? Je vais ce soir le demander au trio organisateur de ce nouveau diplôme.
Alors, je m'appelle Jérémy Ferrari, je suis humoriste et producteur. Voilà, mais bon, j'ai plein d'autres petits trucs, mais bon, on n'aura pas. C'est pas mon interview, c'est pour l'école, donc je m'arrête.
Alors, justement, vous faites d'autres petits trucs, et notamment cette création d'une école qui n'est pas un petit truc, une école pour apprendre aux futurs comédiens l'humour. Est-ce que ça va être des comédiens d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez l'impression que l'humour peut s'apprendre ? Est-ce qu'on peut créer une école pour apprendre à être drôle ?
Alors non, ça s'apprend pas, mais on peut apprendre la technique. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la prétention de dire vous rentrez, vous n'êtes pas drôle, vous sortez, vous êtes drôle. Ça serait complètement stupide de promettre ça aux gens. Non, l'idée, en fait, c'est d'avoir des gens qui ont envie de s'y intéresser. On est vraiment sur la recherche de gens qui ont envie de s'intéresser à ce qu'est l'humour. Après, évidemment, je pense qu'on va avoir une majorité de gens qui veulent monter sur scène en one-man show, en duo ou en trio, mais je veux dire, un comédien qui veut juste se spécialiser en humour est également le bienvenu. Le but de cette école, c'est de leur apprendre une méthodologie de travail et de leur donner des bases pour améliorer leurs aptitudes. C'est pour ça que l'école, elle est là pour faire vraiment un accompagnement. Vous savez, moi, je reçois des centaines de messages par mois de gens qui veulent devenir humoristes, qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Donc la plupart, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent un peu de leur côté, puis après, ils vont dans des comedy clubs se tester. Alors certains vont trouver leur voie immédiatement comme ça, et c'est très bien. Je veux dire, moi, j'étais plutôt autodidacte, donc je ne suis pas là pour dire tout le monde doit passer par une école. Mais l'idée, c'est de proposer un vrai programme, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des écoles d'humour, mais qui sont un peu légères, quoi. C'est-à-dire qu'on va leur proposer 6 heures, 9 heures, 10 heures par semaine avec juste un professeur. Nous, l'idée, c'était de proposer une vraie école, comme ils ont déjà aux États-Unis, comme ils ont déjà au Canada, parce que l'humour en France prend une place extrêmement importante. On sait maintenant que c'est les spectacles qui marchent le mieux, qui font le plus de billetterie. Il n'y a pas vraiment de formation très très complète. Je ne critique pas les autres formations. Je dis que nous, notre école, elle propose 6 heures d'improvisation, 6 heures d'écriture, 6 heures de théâtre, 3 heures de travail sur le corps, 3 heures de travail sur l'humour de l'histoire, l'histoire de l'humour, pardon, 3 heures de sport et 3 heures de débat et rhétorique, c'est-à-dire un professeur qui va leur apprendre à analyser la presse, construire un argumentaire, que ce soit pour répondre à des interviews, que ce soit pour s'en servir dans leur sketch. Donc à l'heure actuelle, ça n'existe pas. La deuxième année, on leur fait 18 heures de cours en gardant les cours mères, théâtre, improvisation, écriture. Là, le but de la deuxième année, c'est qu'ils ressortent avec un spectacle complet. Et on va leur donner accès à un comedy club gratuitement devant un public qui n'a pas payé et qui vient les voir découvrir les élèves de l'école. C'est-à-dire que deux fois par semaine, ils ont accès tout de suite à un comedy club. La première année est à Avignon, la deuxième année, elle est à Paris. Donc, ils sont en plus sur place déjà pour aller aussi se tester dans d'autres comedy clubs. Donc, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Je pense qu'en fait, on a essayé de créer quelque chose qui manquait.
Comment on y rentre dans cette école ? Il y a une audition d'entrée ?
Alors bon, c'est très basé sur... c'est très basé sur ma mentalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle. Mais parce que je ne peux pas mettre de règles. Moi, je suis arrivé au cours Florent, j'étais un des plus jeunes, voire le plus jeune élève des cours Florent. Je suis arrivé à 16 ans et demi là-bas, j'ai eu une dérogation, alors que normalement, ils ne prenaient que les majeurs. J'avais pas le bac, donc si vous voulez, c'est très difficile pour moi de mettre des règles. Donc la première motivation, c'est...
La motivation.
Voilà, vous me l'avez volé. En fait, il n'y a pas de règles dans cette école. C'est la même chose, c'est pour... L'école coûte 9200 euros par an, parce que, évidemment, c'est une école privée, hein, donc on fait ça c'est Frédéric Biessi et Mélanie Biessi qui financent ça. On a réussi à avoir des mécènes pour obtenir 10 bourses. Moi, j'en finance 2, donc ça en fait 12. Donc il y a 12 élèves pour l'instant, on espère faire encore mieux dans l'avenir, pour l'instant, on en a déjà 12, pour qui on va financer la totalité de la scolarité, la totalité des 2 ans. Parce que le but aussi, c'était de permettre à des gens qui ont moins les moyens de pouvoir venir. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, j'aurais pas pu me payer une école à 9000 euros par an. Donc on a essayé vraiment de faire au mieux.
Merci beaucoup. On suivra ça. Merci.
Mais avec plaisir.
Donc Geneviève Mallet-Othoniel, qui est maintenant directrice générale de l'ESSAR, fabuleuse école.
Donc concevoir un programme éducatif, vous en avez l'habitude, vous avez fait ça souvent. Comment vous l'avez pensé, celui de cette école ici ?
Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée dans ce projet. Premièrement, parce que c'est un lieu qui s'inscrit dans un théâtre, un lieu de création, de diffusion. Et la première chose était de dire que les gens de l'humour vont rencontrer des comédiens, des danseurs, des gens du cirque, et tout le panorama finalement du spectacle vivant, même au-delà, et des arts plastiques. Et que donc du coup, c'était pour moi important parce que je pense qu'un artiste se construit à la fois dans ce qui le différencie des autres et ce qui le conforte dans ce qu'il est. Et donc ça, c'était la première chose qui m'a vraiment intéressée. La deuxième chose, je dois dire, c'est avec Frédéric Bissy, c'est la grande liberté que j'ai eue pour travailler, pour proposer, pour réfléchir, pour discuter, revenir en arrière, repartir. Donc ce travail de tâtonnement m'intéressait beaucoup. La troisième chose, c'est aussi la rencontre avec Jérémy Ferrari. Je connais très peu le champ de l'humour. Je le connaissais un peu, mais vraiment très peu. Et j'ai observé ce qui se passait. La première chose que je me suis dit, c'est un art à part entière, réellement, et qui n'est pas reconnu aujourd'hui comme un art à part entière. C'est toujours un peu l'humour, non ? C'est pourquoi d'ailleurs le diplôme, je l'ai appelé d'artiste humoriste. Je tenais beaucoup à ce qu'on les nomme en tant qu'artiste. La deuxième chose, quand j'ai observé comment travaillait Jérémy Ferrari dans la production de ses spectacles, il est à la fois sur un travail de recherche très très solide, donc un travail d'exploration, de recherche de sources.
Oui, de documentation.
Creuse. C'est inimaginable. Il y a très peu d'artistes qui mettent à disposition leurs sources, ce qu'il fait. C'est un travail d'interprétation incroyable et c'est un travail de narration d'un récit incroyable. Et donc, je suis partie sur ces trois piliers, recherche, interprétation, narration. Et je me suis dit, il faut qu'on garde cela. C'était ça l'idée. C'était une première année assez... assez académique, et une deuxième année où il gagne en autonomie de plus en plus pour justement être à même de partir dans le métier.
Alors je suis Frédéric Biessy, je suis le directeur général du projet Scala.
Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'école, puisque oui. C'est un de vos nouveaux projets. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où est venue cette idée et pourquoi vous avez décidé de faire appel à Jérémy Ferrari ?
À l'origine, quand on a ouvert la Scala Paris en 2018, ça faisait déjà partie du projet. J'étais parti de l'idée que je voulais accompagner un artiste. La Scala pouvait accompagner un artiste sur tout son parcours, du moment où il désire devenir un artiste, donc il faut le former, puis après il faut l'aider à créer. Puis après, il faut l'aider à se présenter au public. Et c'est cette boucle-là qu'on vient de boucler avec l'école. Donc c'est quelque chose que j'ai en tête depuis 5 ans. Et comme tout ce que j'ai fait à la Scala, il faut que je fasse la bonne rencontre. Et sur l'école, la première personne qui, pour moi, était importante avant même que je fasse appel à Jérémy, c'était Geneviève. Parce que je voulais une école qui soit à la fois accessible à tous et surtout qu'il n'y ait aucune sélection par le compte en banque des parents ou par la capacité financière des gens, puisqu'une école, ça coûte cher, et qu'au bout du compte, on voulait que les gens qui s'inscrivent là puissent avoir des aides et des soutiens.
Parce qu'il faut peut-être le redire, la Scala est un établissement privé. Alors vous avez un statut un peu particulier, vous flirtez aussi beaucoup avec le monde public du théâtre, mais c'est quand même un établissement privé.
C'est complètement privé. La définition du privé, c'est qu'elle n'a pas de subvention. Voilà. Donc je suis privé.
Et pourquoi avoir choisi spécifiquement une école du rire ?
Très bonne question. Au début, je me suis posé la question, la Scala, on mélange tous les arts. Donc j'avais toute l'attitude. J'ai dit une école de théâtre. Il y en a des magnifiques, et je pense évidemment à toutes, aux trois auxquelles on pense tous les deux, c'est-à-dire à Lyon, à Strasbourg et à Paris.
Les écoles nationales de théâtre.
Nationales. Ensuite, il y a des écoles privées qui sont vraiment de plus en plus intéressantes et de plus en plus solides. Donc je me suis dit, j'ai rien à faire là, je vais faire une école de plus. Dans la danse, pareil. Dans le cirque, pareil. Le seul endroit où il m'a semblé que c'était un art un petit peu naissant, en tout cas qui commence à avoir une vraie place, et où il y a un peu de tout, où il y a eu la formation de ces comédie clubs, où je me suis dit, c'est bizarre ces comédie clubs, à quoi ça sert exactement ? Est-ce que ça forme vraiment les gens ? Ou est-ce que ça finit par être une activité à part entière ? Parce que je n'ai pas vu beaucoup de gens des comédie clubs devenir des vrais humoristes qui ont un spectacle d'une heure. Et donc je me suis dit, peut-être que là, il y a un vrai besoin. Et en réalité, quand j'ai appelé Jérémy, il est venu pour me dire non. D'ailleurs, il le raconte très, très, de manière beaucoup plus drôle que moi. Et il est venu pour me dire non. Et quand je lui ai dit, bah, ça serait quoi l'école de tes rêves? Et qu'il m'a raconté ce que ça serait, je lui ai dit, bah, on fait ça. Alors il m'a dit oui.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, dans le cadre des 150 ans de l'impressionnisme, direction Giverny dans l'Eure, pour visiter l'exposition « Les impressionnistes et la mer ».
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.